Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors bonjour à tous, mais moi aussi je vais vous parler un peu du milieu associatif, mais indirectement, j'espère que vous verrez pourquoi. Alors j'ai décidé de parler de l'humanisme, je sais pas ce que j'y pense un peu en ce moment, et comme tous les mots en isme, ça crée des schismes, donc on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et on s'en rend compte dans la politique actuelle que c'est une question encore importante parce que aujourd'hui comme hier, rares sont ceux qui ne se disent pas humanistes. C'est une question de principe pour des candidats ou bien pour des électeurs ou des gens lambda de Mélenchon à Fillon. La défense de l'homme comme valeur en soi semble unanimement partagée. Et que le discours concerne les ouvriers, travailleurs, les étrangers, réfugiés, ou bien Madame tout le monde, c'est la dignité de l'existence en vue du progrès de la civilisation humaine qui est à chaque fois mise en avant. Et à supposer que quelque chose comme l'humanité ou bien quelque chose comme la civilisation existe, il y a autre chose qui existe, ce serait un idéal de bonheur qu'il faudrait réaliser dans l'histoire à travers les affaires humaines.
Mais alors, est-ce qu'il est souhaitable, voire même possible, de se dire non-humaniste ?
Et oui, et on peut même se dire anti-humaniste. En fait, être non-humaniste, c'est ce que nous faisons de manière imperceptible, sans s'en rendre compte. Par exemple, quand nous réservons la qualité d'humanité à certaines pratiques culturelles qui nous déplaisent. Or, qu'est-ce qui est humain chez celui qui désigne quelque chose comme inhumain ? Alors, on a traité beaucoup de gens de barbares ces derniers temps. Mais peut-être que, paradoxalement, comme le dit Claude Lévi-Strauss dans sa conférence à l'UNESCO en 1952, le barbare est d'abord l'homme qui croit à la barbarie. Et donc, le retardé serait celui qui opère une coupure de la réalité humaine entre diverses coutumes, faisant ainsi preuve d'ethnocentrisme. Car sans tomber dans un relativisme qui aplatirait les différences au nom d'une vérité inexistante ou artificielle, il existe bel et bien une relativité des valeurs que nous construisons historiquement, culturellement, en fonction de ce qui nous apparaît comme agréable et utile. Alors, il nous semblerait que la violence et la beauté, en fait, d'une vérité, seraient dans ce qu'essaie de faire Montaigne, c'est-à-dire frotter et limer notre cervelle contre celle d'autrui.
Par exemple, dans mon racisme quotidien, ça fait de moi un non-humaniste ?
Eh oui, un petit peu. Et on peut même se demander s'il y aurait un enjeu éthique à se dire volontairement anti-humaniste. Bon, je fais de la provoque, ça sert à quelque chose, à discuter. Avant tout, autour de la question du rapport entre l'homme et la nature, l'anti-humanisme théorique, c'est-à-dire de principe, prolonge les travaux des biologistes et des anthropologues. En effet, ceux-ci affirment que depuis longtemps, ils le font depuis longtemps, qu'il n'existe pas de différence de nature entre l'homme, les autres animaux et les végétaux, mais plutôt une différence de degré. Entre Pierre et un singe, la différence se joue au niveau du degré de complexité de la machine biophysique, sans pour autant dire que Pierre est un macaque. Et donc, l'humanisme critiqué ici, dans ce cas, est celui d'un anthropocentrisme traditionnel dans la majorité des cultures occidentales, qui fait de l'homme l'image d'un dieu, pouvant se rendre comme maître et possesseur de la nature.
Attends. Si notre modernité est caractérisée par une rupture avec la transcendance religieuse, pourquoi ne pas tout simplement briser une dernière icône, celle qui sacralise l'homme ?
Exactement, t'as tout compris. Cette déconstruction d'une autorité supérieure et inatteignable n'implique pas, pour autant, une violence chaotique dans les sociétés. Ce n'est pas parce qu'on a une position théorique anti-humaniste qu'il ne peut pas y avoir des conséquences positives, heureuses, à nos décisions, par principe, non humanistes. C'est seulement que le moralisme qui revient à incarner dans l'individu un mini-dieu n'est pas nécessaire à l'amélioration des conditions de notre expérience. Bien au contraire, on ne peut pas connaître quelque chose de l'homme qu'à la condition absolue de réduire en cendres le mythe philosophique de l'homme. C'est ce que disait Louis Althusser, philosophe marxiste des années 70. Il y a en effet une difficulté à croire que l'on peut aider un inconnu coûte que coûte, peu importe ce que l'on s'imagine comme étant bon pour lui. Avant cela, il y a la rencontre des déterminations sociales et culturelles qui rendent possible un accompagnement dans l'émancipation collective des individus. Car le refus de la transcendance d'un dieu ou d'une nature humaine va de pair avec l'affirmation d'un pouvoir de transformation présent, concret et immédiat. Je vous l'avais dit, l'anti-humanisme, c'est une question de principe. On passe de l'homme au vivant, de l'humanité aux animaux non humains, et de la charité à la solidarité.
Une réaction peut-être autour de la table ?
Donc tu es anti-humaniste ?
Théorique.
Théorique, d'accord.
Anti-humaniste théorique.
Ça fait un peu penser dans les cours de relations internationales qu'on peut avoir et quand on s'intéresse par exemple aux relations avec la Chine et qu'on se met à parler bien sûr de l'européocentrisme, etc., où on met en avant le fait que voilà, la culture diplomatique européenne met en avant les droits de l'homme, il faut absolument parler des droits de l'homme, comment peut-on négocier avec l'Arabie Saoudite alors qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme et que nous sommes la patrie des droits de l'homme, etc. Mais après justement quand on se retrouve confronté à la diplomatie chinoise, on se rend compte que bah, déjà ils n'ont pas du tout la même histoire philosophique et qui partagent pas du tout ce point de vue. C'est pas pour autant qu'ils ont une vision, totalement considérer que tous les autres êtres humains sont des animaux, etc. Du coup, ça ne va pas non plus les pousser dans un racisme très très approfondi, mais quand même, ils n'ont pas la même perception que nous, justement, de ce que c'est que l'humanité.
Bon, comme Maëlys l'a si bien rappelé, je ne suis qu'un 18e-iste.
J'ai pas dit ça.
Et donc bercé dans l'idée d'un universalisme sans limite. Mais... Non mais c'est vrai, ça pose pas mal de questions. Je reviens sur ce que tu disais en introduction, sur la revendication d'humanisme, qui considère qu'en fait, que finalement, si tout le monde est humaniste, est-ce que ça ne revient pas à dire que personne ne l'est ? Puisque si on considère que on peut à peu près mettre tout et n'importe quoi derrière cette notion, puisque l'humanisme de Marine Le Pen n'est sans doute pas l'humanisme de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon ou Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou, ça revient en fait à considérer qu'il y a des humanités toutes relatives. Et on joue en gros à s'aborder un concept qui a été créé dès le XVIe siècle, en fait. Et ça me fait rappeler une histoire qui a eu lieu cet été sur Gérard Collomb. Gérard Collomb, qui est un des hommes politiques qui se revendique non seulement d'un humanisme, mais d'un humanisme lyonnais. On verra ce que ça. En renvoyant aussi à toute la tradition politique à Lyon, qui est quand même très axée sur le centrisme. Et donc du coup, et en fait,
ou bien l'anarchisme, si on prend la tradition issue de Bakounine, qui a dirigé la commune à Lyon pendant juste avant la commune de Paris.
Comme je le disais à ma toute première chronique dans Tous Politiques, en fait, il n'y a pas énormément de différence entre un centrisme classique et l'anarchisme d'ailleurs.
Oui, on y reviendra. Mais mais en fait, parce que du coup, Gérard Collomb avait fait fermer des points d'eau dans la ville de Lyon, points d'eau qui étaient utilisés par des personnes migrantes et sans domicile, qui venaient soit boire de l'eau potable, soit laver quelques vêtements qu'ils avaient. Et la mairie avait décidé de fermer ces points d'eau pour déloger en fait les personnes migrantes, tout en se revendiquant d'un humanisme sans limite.
Moi, j'ai rajouté de l'eau au moulin, mais est-ce que est-ce que l'humanisme n'est pas déjà ethnocentré ou sociocentré ? Enfin, voilà, moi, c'est.
Oui, je suis d'accord.
Voilà.
Je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que j'essaie de montrer qu'il peut y avoir un anti-humanisme qui a des conséquences pour l'émancipation ou bien la transformation positive des conditions d'existence.
Après, on n'est pas non plus obligé de tomber dans un anti-humanisme. On peut juste être non-humaniste si on considère
si on
que...
regarde que dans l'histoire, l'humanisme s'est traduit par des guerres, de religion,
colonisation.
De la colonisation, du messianisme occidental, et encore aujourd'hui un refus de l'accueil des réfugiés. Alors c'est peut-être une question de principe qui donne un axe tout différent à la construction d'un vivre ensemble.
Oui, mais après, encore une fois, c'est... Enfin, si on revient à l'origine de l'humanisme, on pense à l'humanisme européen, bien sûr. D'ailleurs, c'est européen, l'humanisme, c'est cette idée, juste avant la Renaissance, que des penseurs peuvent se déplacer partout en Europe et constituer une communauté de savants homogènes à travers toutes les frontières. C'est sûr que c'est, bien sûr, un point de vue qui est forcément européocentré. Et après, ça fait tellement longtemps que cette doctrine existe qu'il y a eu énormément de branches qui se sont séparées et tout. Mais après, on peut quand même regarder, par exemple, les droits de l'homme aujourd'hui. C'est un humanisme qui est reconnu par une grande partie de la population mondiale parce que c'est suffisamment vague pour que les gens disent « Ouais, quand même, on peut pas dire on est contre l'esclavage et la torture. »